Alors, donc là, c'est Cyprius qui rajoute une petite interview donc de Guillaume Besançon de JDR Magazine. Bah, je vais le laisser se présenter.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Besançon. Je suis donc à l'origine du concept et du projet Jeux de Rôle Magazine, projet qui est devenu un vrai magazine qu'on trouve dans les vrais kiosques.
Alors actuellement, vous en êtes à combien de numéros ?
On en est au numéro 3 qui vient de sortir.
Ok.
Et le numéro 4 est déjà en maquette.
Alors donc on en parlera donc numéro 4 tout à l'heure. Alors à propos de JDR Magazine, donc vous avez fait 3 numéros. Donc du coup vous avez commencé à quel moment en fait le premier numéro est sorti quand ?
Le premier numéro est sorti au mois de mai. Mais avant d'en arriver là, il y a eu à peu près 6 mois de réflexion et de travail et de réunion d'une grosse équipe qui est toujours en train de grossir d'ailleurs.
D'accord, alors donc mois de mai, donc en gros vous avez commencé en fin d'année 2007
hein. Fin d'année 2007, tout à fait, je me suis dit tiens, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas eu de magazine sur les jeux de rôle, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et je suis allé chercher des gens sur le net, sur les forums.
Ah d'accord, donc en fait le projet est venu d'abord de toi en fait.
Le projet est venu au départ ouais, d'une envie d'avoir un magazine sur les jeux de rôle et de l'idée qu'une communauté aujourd'hui, même à l'époque de l'internet, si elle n'a pas son magazine papier, elle a du mal à se sentir exister.
D'accord. Et toi-même, tu pratiques le jeu de rôle ou
Alors moi, je pratique le jeu de rôle depuis 1980.
80, voilà.
J'ai commencé donc avec Donjons et Dragons. À l'époque, il n'y avait pas trop le choix. La boîte rouge, comme beaucoup. Je n'ai pas connu la boîte blanche, je ne suis pas assez vieux. Et voilà, avec un copain de mon frangin, j'étais en 6e à l'époque, qui rapporte ça à la maison. Et on a trouvé ça tout de suite absolument super. Et voilà, donc 28 ans de jeu de rôle derrière moi.
Oui, non, mais il y a quelques-uns qui doivent connaître la boîte rouge de Donjons et Dragons. Tu es déjà venu, je crois que tu es déjà venu au Nuit Ténébrée
une fois, ouais,
qu'on organise.
Fait,
une fois.
C'est comme ça que j'ai connu l'association.
Bah, c'était justement, c'était pas au moment du projet, justement, puisque il me semble que c'était il y a un an. C'était au mois de décembre 2007.
Ouais, le projet commençait à germer dans ma tête à ce moment-là.
D'accord. C'était pour la nuit Bad Guys.
C'était
la nuit Bad Guys.
C'était la nuit Bad Guys, il me semble bien.
Et t'étais à une table.
J'étais à une table avec Chrysal. Et c'était une table de cinglés. On jouait des.
C'est loup-garou.
On jouait des loup-garous.
Loup-garous les déchus.
On jouait.
Les purs.
Les purs et les déchus. On les a joués à la suite.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a commencé par jouer les déchus jusqu'au lever du soleil. Et là, je me suis dit, bon, la suite du scénario, c'est pour la prochaine fois. Et à ce moment-là, il y a les gars qui ont dit, on fait la suite. Moi, j'ai regardé dehors, je voyais le soleil qui se levait. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et si. Et donc, on a refait tout le scénario, mais vu d'en face, c'est-à-dire vu des méchants ou des gentils, ça dépend comment on se place.
D'accord.
Et donc on a commencé par jouer les déchus et ensuite les purs en face quoi.
D'accord, et ça durait jusqu'à quelle heure finalement?
On était les derniers à partir,
le
gardien était un peu surpris, nous a regardé sortir avec une mine pitoyable. Et en même temps on était tout feu tout flamme, on était en train de refaire le scénario en discutant. Enfin c'était une super nuit quoi.
D'accord, ah oui donc c'est marrant de voir la coïncidence entre ton projet de création de magazine et le fait que tu sois venu justement à Ténébrée à ce moment-là. Donc le projet est venu vraiment de ton constat et de ton envie de voir un magazine se créer. Et tu as réussi à mettre sur pied une équipe rapidement ou
oui,
ça
alors,
a pris un peu de temps?
Ouais, ça a mis un peu de temps. Au départ, les gens ne croyaient pas tellement à la possibilité de ressortir un magazine de jeux de rôle. Et puis très rapidement, ce projet qui venait de moi a été repris par des gens de très, bon, très haut niveau. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment mon projet, mais c'est vraiment un projet de toute une équipe, tout un collectif. On m'a un peu piqué le projet en quelque sorte. et c'était mon but. Mon but, c'était vraiment de faire un projet collectif participatif où tout le monde pouvait participer. Justement, il y a un moment où les gars se sont emparés du truc. Ça a été 2-3 jours un peu difficile, un peu surprenant pour moi. Et en fait, introspectivement, je me suis dit, bah ouais, mais en même temps, c'est ça que je veux. Et donc, aujourd'hui, je participe plus au contenu du magazine. Et je fais attention justement à ne pas trop participer au contenu. Pour pas être à la fois, en quelque sorte, le gars qui édite et le gars qui rédige. Je veux que ce soit vraiment un magazine d'une communauté, quoi.
Alors, en quelques mots, comment tu pourrais résumer le projet d'IDR Mag, en fait?
Alors, en quelques mots, bon, on va prendre beaucoup de mots, en fait.
D'accord, en plusieurs mots, alors. Qu'est-ce qui vous différencie ou qu'est-ce qui fait que vous êtes un magazine de JDR? Est-ce que vous intéressez à un seul type de jeu ou finalement vous êtes super ouvert?
Alors, on est super ouvert, mm-hmm. Ça, c'est clair. On est super ouvert, on est là pour soutenir le jeu de rôle en général, dans son point de vue éditorial. On est là pour soutenir les éditeurs, on est là pour soutenir le loisir tel qu'il est aujourd'hui, on est là pour rendre service aux joueurs. On est communautaire, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent participer, ils participent. Il n'y a pas de limite. On soutient plutôt la production française, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'étranger. On essaye d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de la sphère anglophone aussi. Il y a des choses super intéressantes qui se passent, par exemple, chez nos amis espagnols, etc. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à avoir accès à tous ces textes et à faire des tests.
Donc comme vous êtes, enfin, donc vous seriez plutôt généraliste en fait au niveau des JDR en question.
On est archi généraliste.
Voilà, c'est-à-dire que vous avez dans un numéro, il peut y avoir quelque chose sur Donjons et Dragons et quelque chose sur le monde des ténèbres.
Exactement. Voilà. Et c'est ce qu'on trouve par exemple dans le numéro 2. Il y a du donjon et il y a du monde des ténèbres.
Alors, mais chaque numéro a un thème précis.
Chaque numéro a un thème. Alors le thème, ça va être un gros dossier, un gros dossier qu'on va approfondir. On va faire une quinzaine de pages plus un scénario là-dessus. On peut très bien avoir deux dossiers, trois dossiers, c'est ce qu'on a fait dans notre numéro 1. Mais ça ne va pas être tout le magazine. Il y aura toujours une place pour les news un peu généralistes, pour des critiques, pour des scénarios qui ne vont pas être forcément dans le thème du jour. Tous les magazines restent généralistes si à chaque fois, même si à chaque fois on a un gros dossier sur lequel on va approfondir un peu les choses.
D'accord, c'était quoi le thème du numéro 1 ?
Le thème du numéro 1, c'était le retour des grands anciens.
Ça veut dire que
c'était... Les grands anciens, c'est-à-dire Cthulhu, Donjons et Dragons et Warhammer.
D'accord.
Parce que cette année, l'année 2008, ça a été un petit peu le retour justement de ces trois blockbusters, avec Donjons et Dragons 4ème version, Warhammer et puis surtout Dark Heresy là, qui vient de sortir, le jeu de rôle dans l'univers de Warhammer 40 000. Et puis Cthulhu avec deux versions cette année, la version 7ème siècle basée sur les règles de Gumshoe, qui sont des règles assez simples, presque aussi bien que les règles de 1d6, notre petit jeu de rôle maison, et superbement illustré par Jérôme Buguenin qui a fait des photomontages ambiance glauque des années 30, vraiment magnifique. Et puis la dernière version du Cthulhu Chaosium plus traditionnelle, traduit par l'équipe de Ludic Bazar, qui a créé une maison d'édition pour le coup qui s'appelle Sans Détour, et qui va nous sortir donc le Cthulhu traditionnel normalement début novembre, mais je crois qu'il y a des petits soucis d'impression, de diffusion, etc. Donc ça sera peut-être pour la mi-novembre.
D'accord, donc ça c'était donc le constat donc du retour des grands anciens.
Voilà, c'était le retour des grands anciens et donc on a fait un gros dossier sur chacun de ces trois thèmes. Un petit historique de Donjons et Dragons, surtout que c'était la mort de Gary Gygax, donc
oui.
Forcément il fallait parler du passé.
Et alors le thème du numéro 2 c'était quoi après ?
Thème du numéro 2, Monde des Ténèbres.
Ah, voilà. Bon, donc on en parlera justement peut-être un petit peu après.
Ouais, tout à fait.
Alors, par rapport à la rencontre entre JDR Magazine et Le Monde des Ténèbres, et Ténébrae, en l'occurrence nous, donc ça s'est fait en fait finalement sur le salon du jeu, même si on a vu quelques mails en échange avant.
Oui.
Alors à propos du salon du jeu, ou Monde du jeu, puisque le nom, d'ailleurs je sais un peu quel, c'était quoi le nom exact.
Monde du jeu.
C'était le monde du jeu, ok. Parce que ça avait déjà changé avant. Donc le monde du jeu, là on a déjà fait un bilan pour le podcast, ou un bilan très positif. Alors est-ce que c'était la même chose pour vous? Est-ce que ça a été un bilan positif, le monde du jeu?
Bah oui, comme tu l'as vu, on était juste à côté et je pense qu'il y a eu une super affluence avec des vrais gamers passionnés comme on les aime. Des mecs qui se précipitaient sur notre stand en voulant avoir le numéro 3 dans les mains, puisqu'on l'avait sorti en avant-première pour le monde du jeu. Et on voyait des mecs qui s'étaient déplacés de très loin pour venir chercher leur numéro 3. Des anciens de Casus Belli qui venaient nous serrer la pince et nous encourager. On a vendu tous les numéros 3 qu'on avait apportés en une journée et demie, ce qui fait que sur l'autre moitié du salon, on n'avait plus rien à vendre. Mais c'est pas grave parce qu'on avait plein de gens à rencontrer, plein de choses à discuter, plein de gars qui sont venus soit pour nous serrer la pince, soit pour nous féliciter, soit pour proposer d'écrire un petit article, faire une petite illustration, participer. Et c'était super sympa. On a organisé des tables d'initiation qui étaient pleines pendant les 3 jours. Et ouais, c'est vraiment super ambiance, vraiment des gens passionnés. C'était un super salon. Franchement, pour le jeu de rôle, c'est un super salon. Je pense qu'il y en a deux comme ça. Il y aura la Gen Con qui devrait se faire. Alors, je tiens à le dire parce qu'il y avait des doutes.
D'accord. Donc maintenant, tu peux annoncer que la Gen Con aura lieu en 2009.
Tout à fait. On a contacté Asmodée.
D'accord.
Il y avait des doutes qui planaient suite à des problèmes financiers de la maison mère. Mais la Gen Con se fera. Ils cherchent une salle. Donc la date n'est pas encore fixée. Mais nous, on y sera et je pense que ce sera un peu la même ambiance que le monde du jeu.
D'accord.
Donc, super ambiance avec que des passionnés complètement cinglés. On va bien se marrer.
Bon, voilà. Donc là, on fait 2 avis positifs là, déjà pour le monde du jeu. D'ailleurs, tu parlais des ventes. Là, où vous en êtes où? Enfin, c'est plutôt positif vos ventes au niveau des premiers numéros, là, les 3 premiers. À moins que vous n'ayez pas fait un bilan tout de suite.
On vient d'avoir les ventes du numéro 2. On en a vendu peut-être 1500 de plus que le numéro 1 seulement, ce qui est un petit peu décevant parce qu'on espérait mieux. Donc aujourd'hui, on est au point mort, on est un peu au-dessus du point mort au niveau financier. Ça devrait mieux se passer sur les numéros suivants. Faut savoir que dans le monde de la presse, on a énormément d'invendus. Et donc, les ventes, ça peut être très variable. Là, on avait sorti notre numéro 2 au mois d'août. C'était pas le meilleur moment. On l'a retiré des kiosques un peu plus tôt. Pour pas refaire la même erreur de sortir en même temps que Black Box. On s'est arrangé sur le monde du jeu, justement, avec Black Box pour sortir bien en décalé. Donc, on l'a sorti un peu plus tôt et on va sortir le numéro 4 encore un peu plus tôt. Donc à chaque fois, ça fait quelques jours en moins en kiosque. Et je pense que sur le numéro 3 et 4, on va rattraper, je dirais, les numéros qu'on espérait vendre sur le numéro 2.
En tout cas,
et globalement, c'est plutôt positif. Ouais.
Non, mais en tout cas, faudra. On en a vendu, je sais plus, on en a vendu, enfin, à notre niveau, on en a vendu 2, je crois, les numéros que tu nous avais passés,
ouais,
là.
Ouais.
Bon, je pense qu'il faudra en apporter là, à la prochaine AG ou Ténébraille, où vous serez, enfin, où tu viendras.
Ouais,
tu viendras accompagner.
Bien sûr. Ouais, avis aux amateurs, donc Ténébraille, Jeux de Rôle Magazine, cherche des partenariats. Un exemple de partenariat, on a fait des échanges de magazines avec Ténébraille pour. Augmenter notre surface de vente. On vend du Ténébraille sur notre site. On vend le Veilleur.
Ah bon ?
Venez nous acheter.
Ah, vous l'avez mis sur le site ?
Voilà, on l'a mis sur le site.
C'est bien.
Et venez acheter des jeux de rôle magazine sur les nuits Ténébraille. Voilà. On parlera des partenariats un peu plus tard.
Ouais. Et je ferai de la pub de toute façon pour. Ce serait pas mal pour la prochaine nuit et la prochaine AG puisqu'elle aura lieu le même jour, le même soir. Ce serait bien de faire de la pub pour dire que par exemple il y aura peut-être le numéro 2 qui est spécialement les ténèbres qui sera donc en vente. Alors à propos du numéro 2, alors donc ça c'est vraiment le numéro consacré au monde des ténèbres, donc c'est peut-être celui qui va intéresser le plus ceux qui écoutent là.
Je pense.
Alors vous avez abordé comment le monde des ténèbres dans votre numéro, est-ce qu'il y a c'est des dossiers, est-ce qu'il y a des scénarios?
Bah, je vais en parler plutôt en tant que lecteur,
Oui.
qu'en tant que personne interne, parce que c'est un magazine que j'ai lu. Comme je disais, il y a eu un peu une OPA sur le contenu, et une OPA amicale.
D'accord.
Et moi, je m'occupe plus du contenu, ce qui est beaucoup mieux comme ça, ce qui me permet d'avoir le résultat escompté, c'est-à-dire un mag de jeu de rôle à lire tous les 2 mois. Donc, bah, il est très bien. Je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, mais évidemment, il y a du scénario, il y a du comparatif, ancien monde des ténèbres, nouveau monde des ténèbres. On parle un petit peu de tous les aspects, hein. On aborde un petit peu tous les sous-mondes du monde des ténèbres.
D'accord, alors en fait c'est autant MDT 1 que MDT 2.
Ouais, tout à fait, nous on n'est pas sectaire du tout.
D'accord.
Je pense qu'aujourd'hui en France, c'est assez réparti entre le MDT 1 et le MDT 2. D'autant plus que, comme la gamme est un petit peu en suspens actuellement, les gens jouent énormément avec leurs vieux bouquins du monde des ténèbres numéro 1.
Oui, bah, c'est vrai qu'on a constaté, on en a parlé dans le podcast, là, qu'effectivement, pour l'instant, Hexagonal, qui avait fait une annonce sur Internet disant qu'ils allaient traduire Mage, ben, ça a été enlevé du planning. Donc, on s'interroge un peu, nous, sur l'avenir du MTT2 en traduction française. Bon, enfin, bon.
Donc, alors, là-dessus...
Ouais, t'as une réponse là-dessus ?
J'ai pas de scoop, mais c'est vrai que Fabrice... Le big boss d'Hexagonal nous avait annoncé au moment déjà de la création de Jeux de Rôle Magazine, il y a une dizaine de mois, que Mage allait probablement sortir. À l'époque, il était un peu embêté parce que il avait le truc sous le coude, tout traduit, tout prêt, peut-être même tout maquetté.
Oui, parce que je crois, il me semblait que la traduction a été faite depuis un petit bout de temps.
Ouais,
en fait.
Tout à fait. Et il avait un peu des soucis d'Hexagonal avec White Wolf. C'est un vieux partenaire de White Wolf. Du coup, il avait un petit peu des conditions privilégiées par rapport à la licence de base. Comme il avait fait confiance à White Wolf dès le début dans les années 90, il n'était pas servi à la même sauce que les gens qui avaient des licences, d'autres licences en Europe. Et puis là, White Wolf remettait un peu tout en question et imposait des exigences assez dures, alors que économiquement, le jeu de rôle se vend plus. Et donc, Hexagonal n'arrivait plus à suivre. Il cherchait, comme beaucoup, à réduire ses coûts d'impression, à aller voir de l'autre côté des mers, ou en Chine, par exemple, si on pouvait pas imprimer pour un peu moins cher, avec la même qualité. Et c'est pas une équation facile à résoudre. Donc, oui, ça m'étonne pas que les choses soient un petit peu reportées de leur côté. Je savais pas du tout ce qu'il en est. A priori, ils avaient repris les licences. Donc, oui, en effet, il y a un an, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils avaient fait pas mal de boulot et on leur avait suspendu leur licence.
Mais on sait, enfin, nous, on a appris qu'ils l'ont renouvelé. Hein.
Ouais, c'est ce qui se dit. Alors, Hexagonal, c'est des gens sérieux, c'est quand même un acteur historique du jeu de rôle. Mm-hmm. C'est des gens qui distribuent Jeux de Rôle Magazine dans les boutiques. Donc, on espère que c'est des gens bien. Si vous n'avez pas votre jeu de rôle magazine dans votre boutique préférée, envoyez un email à Fabrice Sarrivier à Hexagonal en disant que c'est un scandale.
Oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on revoie avec aussi la distribution du Veilleur parce qu'on ne voit pas dans toutes les boutiques. Ouais, donc dans le numéro 2, pour revenir là-dessus, je sais qu'il y a des articles, des critiques d'une gamme. Je sais qu'il y a Sinople qui a rédigé un article sur Changelin, par exemple, Sinople de Ténébrae.
Bah oui, puisque évidemment, quand on s'est dit on va faire un spécial Monde des Ténèbres, une des premières choses qu'on est allé faire, c'est aller sur le forum de Ténébrae et dire « Hey les gars, venez de nous donner un coup de main, vous qui vous y connaissez. » Donc, évidemment, on a reçu un petit coup de main de certaines personnes de l'équipe de Ténébrae.
Il y a eu d'autres personnes de Ténébrae que Sinople ou je sais pas.
Il faut regarder l'ours. Alors, qu'est-ce qu'un ours ?
Oui, c'est quoi
Un ours n'est pas une méchante bête des Pyrénées importée de Slovénie. Un ours, c'est le petit encadré que vous trouvez au début de votre magazine et dans lequel il y a toutes les mentions légales et également le nom des auteurs et des contributeurs. Voilà. Et donc, regarde dans l'ours, vous saurez qui sont les incroyables auteurs de ce magnifique magazine.
Bon.
Je peux pas en dire plus parce qu'encore une fois, déjà, faut l'acheter. Et ensuite, moi, je suis un simple lecteur, donc j'ai même pas regardé l'ours. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai lu les articles.
D'accord.
Ils sont bien.
Bon. Bah, de toute façon.
Félicitations
voilà.
À ceux qui les ont écrits,
oui.
À toute l'équipe. Ils sont vraiment bien.
Bon. Bon, de toute façon, faudra aborder les exemplaires du numéro 2 là pour le 22 novembre. Comme ça, vous pourrez l'acheter sur place à l'EPIT. Alors, numéro 2, donc le numéro 3 qui vient de sortir, c'est ça ?
Le numéro 3, c'est notre contribution, je dirais, au renouveau du jeu de rôle. C'est un spécial débutant. Pour nous, c'était vraiment pas intéressant. Le comité de rédaction voulait pas trop le faire au départ en disant bah, aujourd'hui, les roulistes, c'est pas des débutants, nos clients, c'est pas des débutants d'ailleurs. Et les gens qui nous achètent, c'est des mecs entre 25 et 40 ans, c'est des vieux de la vieille. Alors pourquoi j'ai insisté pour faire un spécial débutant ? Parce que je pense que justement c'est important que malgré le petit trou de génération qu'il y a eu avec l'arrivée de Magic et des jeux vidéo, les jeunes de 15 ans aujourd'hui s'y remettent parce qu'on voit que justement les jeux vidéo, même les jeux vidéo massivement multijoueurs sur internet et Magic n'apportent pas l'élan de créativité et de sociabilité qu'avait le jeu de rôle et que donc le jeu de rôle c'est un jeu mais ça apporte aussi plein de choses et que c'est important qu'on joue au jeu de rôle. Voilà, c'est tout simplement pour ça.
Et donc en fait au niveau de quelques, je sais pas, des exemples de contenu pour parler du jeu de rôle pour le débutant,
alors on a fait un scénar de 4 à 6 ans.
D'accord, un scénar de 4 à 6 ans.
4 à 6 ans qu'on a testé plusieurs fois. Moi entre autres j'ai testé avec ma nièce et ma petite sœur et un stagiaire qui n'avait jamais joué au jeu de rôle. Donc c'est un scénario qui est destiné à jouer par des enfants mélangé à des adultes. D'ailleurs on a un petit explicatif sur comment faire jouer des enfants de moins de 8 ans et on explique qu'il faut de préférence les mélanger à des adultes.
Bon, bah ça va faire plaisir à tous les
voilà.
À tous les rôlistes qui ont des enfants.
Il y en a. Ça se passe dans les bois et ça commence. Chacun est un petit animal. Et ça commence, il fait froid et tout est devenu blanc. Et donc voilà, alors l'enfant rapidement comprend que c'est l'hiver et il va falloir faire quelque chose parce que sinon tout le monde va mourir de froid. Et donc c'est l'aventure de ces animaux dans la forêt. Alors on utilise déjà les dés, on utilise le D6. Parce qu'à partir de 4 ans, un enfant sait compter jusqu'à 6. Et ben voilà, j'ai testé ça avec ma nièce. Le scénario dure une demi-heure. Le souci, c'est qu'au bout d'une heure et demie, elle m'avait fait jouer donc 3 scénarios différents que j'avais dû improviser. Et elle ne voulait plus s'arrêter. Donc méfiez-vous.
C'est addictif.
Si vous commencez, vous ne pourrez plus vous arrêter.
D'accord.
Voilà, donc ensuite, on a un scénario... plus pour des enfants au primaire, voilà, assorti de petits conseils également. On a des conseils pour faire commencer des débutants adultes ou enfants. On a inséré la nouvelle plaquette de la FFJDR en avant-première, qui est très explicative. Mais voilà, encore une fois, c'est un spécial débutant et c'est notre dossier principal, mais il y a plein d'autres choses à côté. Il y a les critiques de ce qui vient de sortir, il y a du scénar un peu plus adulte, il y a plein de choses.
D'accord, bon bah, il y aura aussi sûrement des exemplaires donc le 22 novembre, j'insiste toujours. Et alors, le prochain numéro, qui sera le numéro 4, il sort quand alors celui-ci ?
Le numéro 4 sort le 2 décembre, parce qu'on ne peut pas sortir le 1er, mais
d'accord, le 2 décembre.
À partir du 1er décembre, nous serons dans les kiosques et dans les meilleures boutiques tous les premiers des mois pairs. C'est assez facile.
D'accord.
On peut même dire qu'on sera probablement dans les boutiques un peu avant parce qu'on veut soutenir les boutiques et donc notre distributeur nous a demandé d'être une semaine avant dans les boutiques. Donc on livre notre distributeur hexagonal On essaye de le livrer 2 semaines ou 10 jours avant les kiosques.
D'accord. Et alors le numéro 4, le thème ce sera ?
Le numéro 4. Ah oui, alors le numéro 4.
Alors,
ce sera un spécial Orient.
Ah oui, j'ai vu la pub.
Un spécial Orient avec une couverture.
Alors tous les Orients ?
Tous les Orients. Donc c'est Moyen-Orient, Extrême-Orient, futuriste, passé. Il y aura évidemment du Kin, il y aura du L5R.
D'accord.
Il y aura plein de choses sympas. On va parler de Kuro, on va parler. De tous les Orients. On a une magnifique couverture tirée de Capharnaüm, d'un illustrateur de génie dont le nom m'échappe là actuellement. Vraiment, s'il m'écoute, je prie de m'excuser.
Bah, mais si c'est un mec extraordinaire. Ça te revient, tu reciteras tout à l'heure.
Voilà, ça me revient, j'y retournerai. C'est un mec qui fait un travail extraordinaire. Quand on a ses fichiers en main, parce qu'il travaille sur Photoshop, on peut zoomer et on voit que le gars il travaille dans des détails incroyables. Et justement, l'Orient ça se prête bien à ça, avec les volutes, les mouches à rabier, etc. Il y a des détails vraiment extraordinaires. Et donc, on en a profité, on a fait notre couvre là-dessus. Et voilà, le contenu, je ne peux pas tellement vous en parler parce que. Moi j'attends, je le lirai le 1er décembre comme tout le monde. Je le lirai peut-être un petit peu avant en PDF pour vérifier que il n'y a pas de truc horrible, mais je préfère pas le lire avant.
D'accord. Alors ça c'est décembre 2008. Alors pour l'année 2009, alors vous avez des projets?
Alors, 2009,
ou même plus loin si vous avez des projets.
On a des tonnes de projets magazine et hors magazine. Un petit peu avant 2009 devrait sortir notre hors-série scénario.
Ah oui,
notre but c'est de le sortir avant Noël, pour que vous puissiez jouer pendant toutes les vacances de Noël
avec vos enfants
exactement, qui auront été dûment initiés grâce au numéro 3. Voilà.
Alors spécial scénario, mais
spécial scénario
en vrai comme ça, où il y a un thème aussi?
Non, il y a du scénario. D'accord. Il nous en manque un encore pour boucler, donc appel à texte. Si vous avez un scénario de génie que vous avez déjà testé avec votre table de jeu, qui est bien rédigé, que vous ne faites pas trop de fautes d'orthographe, que vous l'avez lu et relu, eh ben, envoyez-le nous.
On se fera n'importe quel jeu ?
N'importe quel jeu, nous on n'est pas sectaires.
N'importe quelle ambiance ?
N'importe quel jeu, n'importe quelle ambiance, exactement. Et puis s'il sort pas dans le spécial scénario, il sortira pour plus tard. Ensuite, 1er février. Ce sera le spécial pirate. Spécial pirate, pirate et aventure. C'est pas encore bien déterminé. En tout cas, ça va se passer dans les mers. On aura en double page intérieure un bateau un petit peu fantastique. Un bateau de corsaire sur lequel vous pourrez jouer et poser vos figurines. Puis on a des tonnes de scénarios. Évidemment, on va pas être pavillon noir, c'est obligatoire.
Février.
Ça, c'est février. Ensuite, 1er avril, c'est pas une blague, ce sera un spécial futur. Futur avec un S majuscule à la fin.
Alors pourquoi ce serait une blague en fait?
Parce que le 1er avril, on peut
s'attendre à tout. Ah, oh là là, j'ai même pas fait le lien.
On fera une blague sur le blog, donc si vous regardez D'accord. le blog, le 1er avril. Ne croyez pas ce qui a marqué, les extraterrestres n'envahissent pas la France. Non, ce serait une blague. Et donc, 1er avril, donc spécial futur, on va parler de science-fiction, mais aussi d'anticipation, du chrony, et plein de choses dans ce style-là. Voilà.
D'accord.
Et alors derrière, on aura 1er juin, un spécial Moyen-Âge. Pas un spécial Medfan, un spécial Moyen-Âge. On va aborder les choses d'un point de vue historique.
D'accord.
On va faire quelques photocopies de la Bible en la matière, à savoir l'encyclopédie médiévale de Viollet-le-Duc. Et puis, comme ça, ce sera vite fait, quoi. On va pas trop se fatiguer. Chez nous, on est assez flemmards. Et voilà, on va vous parler de Moyen-Âge tel qu'il se vivait vraiment et pas tel qu'il se vit sur Warhammer Online. Et puis ensuite, on cherche des idées. Alors venez sur notre forum et dites-nous ce que vous voulez voir.
Oui, parce que vous travaillez beaucoup par forum en fait.
En fait, l'équipe se retrouve sur un forum. Ça va être un truc genre jeu de rôle magazine.overblog.com. Enfin, vous tapez jeu de rôle magazine sur Google et vous le trouvez tout de suite. Et donc voilà, physiquement, l'équipe existe sur ce forum. Et donc on a une partie publique où tout le monde peut aller et dire ce qu'il pense du magazine et dire surtout ce qu'il voudrait y trouver et encore plus ce qu'il voudrait y faire. Et puis on a toute une partie privée où on travaille entre nous. Voilà, donc venez sur notre forum et proposez-nous des textes, proposez-nous des idées, dites-nous ce que vous voulez comme jeu abordé, comme thème, et on va essayer d'exaucer vos vœux.
D'accord. Et alors, on peut parler aussi d'un projet, même si on est encore qu'au début, mais on a déjà pris quelques décisions. J'en ai déjà parlé sur les forums, il y a un projet de création de magazine avec Tenebrae.
Voilà. On veut faire un magazine en commun avec Tenebrae. D'ailleurs, c'est pas le seul partenariat de ce style qu'on essaye de faire. Mais avec Tenebrae, on a tout de suite trouvé un bon répondant. Faut savoir qu'il y a un peu trois types de partenariats, trois types de gens qui nous répondent dans les partenariats. Il y a les gens qui nous disent c'est pas possible, vous allez nous arnaquer. Alors il y a pas mal de paranoïaques dans le monde du jeu de rôle. Il y a un certain nombre de gens qui vont dire faut que j'en parle. Faut que j'en parle à mon associé, faut que j'en parle. Alors ça se fait jamais. Et puis il y a les gars qui en 5 minutes de discussion vous pondent un projet et voilà, bah, donc c'est un peu ce qui s'est passé entre nous sur le monde du jeu.
C'est vrai qu'au monde du jeu, je t'ai proposé un truc je pensais depuis longtemps.
Et ça se fait, voilà. Donc des partenariats comme ça, on en cherche, on en trouve, on est super ouvert. Et notre idée, c'est un petit peu d'aider des fanzines qui font du super boulot à avoir une meilleure visibilité grâce à notre mode de diffusion. Voilà, puisque pour l'instant, on en vend à peu près 6 000. Et qu'on devrait rapidement atteindre les 8 000 objectifs. Ce qui permet d'avoir une visibilité plus sympa. Voilà, donc ça, c'est la partie un petit peu organique du projet. Alors maintenant, sur le contenu, parle-en. Vas-y, alors, je t'écoute.
Non, je t'avais. En fait, sur le salon, pour revenir au salon, là, au monde du jeu, donc moi, c'est vrai que c'était une idée que j'avais au niveau du fanzine, c'était de boucler. Moi, je parle vraiment du veilleur, hein, le fanzine de Tenebrae. Boucler le numéro 3, on espère, pour début 2009, sur les abysses, pour après enchaîner sur quelque chose auquel je pensais depuis un petit moment, mais ça me paraissait un peu draconien comme projet. C'était vraiment travailler sur les villes dans le monde des ténèbres, légendes urbaines aussi, accessoirement, puisque ceux qui connaissent bien la gamme du MDT, on a eu souvent des décors prêts à jouer entre guillemets pour vampires, pour loups-garous, etc. Et dernièrement, avec le MDT2, ça existe, mais il y en a quand même un peu moins. Et on avait envie de faire nos villes à nous qui n'existent pas. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, comment on va faire? Et c'est là que je suis tombé sur JDR Mag et je vous ai proposé le thème urbanisme ou légendes urbaines ou villes simplement, parce qu'on n'a pas encore défini le titre exact.
Alors c'est moi qui deviens un peu l'intervieweur.
Oui. Ouais, c'est bien.
Est-ce que tu as un petit peu avancé sur les villes candidates?
Alors, pas oui et non en fait, parce que je suis resté au même point. Pour l'instant, moi je suis parti sur Tokyo pour plein de raisons, parce que je connais bien la ville, parce que je pense qu'il y a des choses à faire dans le MDT. Et moi je verrais bien d'ailleurs un Tokyo avec un peu de prêt à jouer au niveau des PNJ et du décor pour le MDT2, et je verrais bien une annexe en plus pour Sion, histoire de lier les deux, même si évidemment c'est pas du tout le même jeu. Enfin bref, donc moi je trouve que Tokyo c'est une ville qui s'y prêterait vraiment très très bien. Il y a eu un projet, bon c'est vraiment très très officieux parce que c'est des petites discussions privées, mais je sais que pour Changelin, moi je verrais bien un crossover Changelin Vampire à Venise avec le carnaval, les masques, etc. Parce que je sais que... Alors, Better Death, le spécialiste de Changelin, lui, était plus parti sur... je crois pas me tromper sur... effectivement, l'Italie, mais plutôt Naples, je crois. Mais bon, on peut encore en discuter. Je sais que Nomad Star va sûrement s'intéresser à une ville française, je crois. Parce que bon, Paris, c'est vrai que Paris, j'ai des scrupules parce que ça me paraît un écueil un peu qui peut être dangereux en fait. Parce que je crois qu'il y a, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur Paris en tête. Et moi, je préférais cibler des cités connues, mais peut-être auxquelles on ne pense pas forcément pour un décor de jeu de rôle. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être réfléchir à une ville, en tout cas une ville française, moi, ça pourrait être pas mal. Mais déjà pour l'Europe, l'Italie, je pense que c'est un bon choix. Après, quelle ville, je sais pas. Bon, et après, bah, c'est pareil, hein, j'attends les projets sur le forum. J'en parlerai en détail plus en détail lors de l'AG du 22 novembre. Voilà, mais n'hésitez pas hein, si vous avez des envies. L'idéal serait, si en plus vous avez déjà une ville toute prête, on est preneur. Alors, bon, là je parle du projet vraiment du projet Ténébrae, le Veilleur. Peut-être que ce sera hors Veilleur d'ailleurs, on verra. Parce que moi j'avais l'idée de faire des petits fascicules en fait par ville, s'il y a plusieurs projets. Et puis en réserver une plus développée, peut-être pour le fameux numéro commun. Mmh. Alors, bah, je vais donner la parole maintenant. Comment tu vois le numéro commun, toi, en fait? Enfin, tu nous as déjà parlé quoi, lors de la réunion.
Il y a plusieurs formules possibles. Je dirais, pour faire un numéro commun, Jeux de Rôle Magazine avec un fanzine, il y avait l'idée de faire sur une couverture Jeux de Rôle Magazine et sur l'autre couverture, faire quelque chose Ténébrae. Il y avait l'idée de faire un encart sur Ténébrae, puis il y avait l'idée, celle qui est plutôt retenue, je pense, sur ce spécial ville, de confier entièrement le contenu à Ténébrae. Et donc, ça veut dire pour l'équipe de Jeux de Rôle Magazine de se mettre un petit peu à l'écart. Alors, forcément, il y aura un mélange des équipes sur certaines choses. Mm-hmm. Peut-être sur les critiques, sur les news, sur la maquette.
Parce que bon, il y a des choses. Nous, on va s'intéresser vraiment au thème de la ville.
Voilà.
Dans le MDT, dans Exalté. C'est vrai que s'il pouvait y avoir une ville spéciale pour Exalté, ce serait assez original aussi. Enfin bref.
Alors après, il ne faut pas que ce soit un spécial Monde des Ténèbres bis non plus.
Oui, oui. De toute façon, je pense qu'on ciblera sur une ville.
Ouais.
Moi, je vois vraiment le projet comme ça. L'idéal, ce serait des groupes de travail sur des villes et puis celle qui est la plus développée ou la plus originale, on pourrait l'utiliser dans le magazine. Moi, vraiment, j'ai l'idée qu'on sorte des petits fascicules pour les autres villes.
Mm-hmm.
Un peu comme des hors-série, mais vraiment à peine avec une dizaine de pages.
Ouais, moi, ça me paraît prometteur.
Ouais.
Très prometteur.
Ouais.
Mais, si vous avez des idées, contactez Cyprius sur le forum de Ténébrae.
Et puis, venez surtout à l'AG pour en parler parce que c'est vraiment là où tout va se décider. Donc ce sera un numéro, voilà. Alors, moi, pour l'instant, c'est vrai qu'on est spécial ville. Bon, après, il y a moi, j'étais plutôt parti sur légendes urbaines aussi. Peut-être que ce sera plutôt notre objet du numéro 4, le Veilleur. Si on arrive à sortir le 3, a priori, oui. Voilà. En tout cas, pour moi, j'espère que l'année 2008-2009, ce sera l'année de la ville, en fait. On en avait parlé, je crois, un petit peu, même si c'est encore un peu tôt, peut-être, pour l'évoquer. Mais bon, ce serait même de conclure le partenariat en sortant le fanzine pour le magazine pour le prochain monde du jeu, c'est-à-dire septembre 2009.
C'est l'objectif, ouais, voilà. C'est l'objectif.
Bon,
ouais.
Je crois que c'est raisonnable quand même comme objectif, ça nous donne ça nous donne du temps.
Il faut savoir qu'un projet comme ça, il faut qu'il soit bouclé facilement 4 mois avant la date finale.
Mm.
C'est des choses un petit peu compliquées à mettre en place. Et ça laisse un temps raisonnable.
Et tu le numéroterais ou ce serait un hors-série? Je sais pas trop.
On sait pas trop encore. En fait, c'est assez technique. Il y a une législation du hors-série en France qui fait que, en tant que bimestriel, on a le droit à 2 hors-séries par an.
Ah oui.
Voilà. C'est une certaine commission paritaire, pour ceux qui s'intéressent au monde de la presse, qui veille à ce que ce soit respecté. Cette commission paritaire nous permet d'avoir une TVA et des tarifs postaux préférentiels. Et donc, si on a le malheur de lui déplaire, on se retrouve avec une facture de TVA et de poste assez rédhibitoire.
D'accord.
Ce qui fait qu'on essaye de respecter les volontés de cette commission.
D'accord. Bon, et c'est très intéressant en tout cas tout ça. Et... pour terminer, tu m'avais dit que tu voulais parler un peu de l'avenir du JDR, selon toi, en fait. bon, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce petit ajout au podcast.
Oui, alors l'avenir du JDR, je voulais en parler parce que je pense qu'on est à un moment où le JDR fait son comeback et son come out à la fois. Il y a quelques années, on avait un peu honte de dire je fais du jeu de rôle. C'est pas le genre de truc qu'on disait dans un dîner mondain. On avait subi les attaques en règle de certains journalistes télé bas de gamme et à destination, je dirais, de gens avides de nouvelles. Il va falloir couper ça.
Non, c'est pas grave.
Je recommence.
Oui, en fait, tu parles de l'époque où en fait on taxait les releases de satanisme.
Voilà, exactement.
Ouais, on a parlé un petit peu dans le podcast.
Donc ouais, c'était vraiment du bas de gamme. C'était un peu populiste comme truc. Et donc en France, le jeu de rôle a eu assez mauvaise presse. Et jusqu'à peu, les gens ne se vantaient pas de faire du jeu de rôle. Dans d'autres pays, le jeu de rôle a pris des voies complètement différentes. Et on voit dans les pays nordiques, par exemple, que c'est des choses qui sont étudiées à la fac, que dans les séries hollywoodiennes aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes de scénaristes qui viennent du jeu de rôle, que le jeu de rôle est devenu une usine à créativité reconnue et recherchée. Et puis tout d'un coup, en France, les gens se disent, bah oui, pourquoi on aurait honte de faire du jeu de rôle ? Puis les rôlistes regardent autour d'eux et puis s'aperçoivent que les rôlistes aujourd'hui, c'est principalement des cadres, des artistes, des professeurs, des dessinateurs, des scénaristes, des artistes en général, des gens d'un bon niveau. Et se reconnaissent entre eux et s'aperçoivent qu'il y a quelque chose à faire dans la communauté rôliste, qui a un esprit en commun, qu'il y a plein de choses qui peuvent se monter. Et tout d'un coup, dire je fais du jeu de rôle dans un dîner mondain, c'est plus honteux, c'est un peu comme dire je lis des romans interdits et je lis Emma Bovary au 19e siècle, c'est plutôt chic. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe. Le potentiel créatif du jeu de rôle est reconnu. Et surtout, la génération jeu de rôle est un petit peu au fait de sa potentialité avec des gens qui ont en moyenne 30-35 ans et qui sont à fond dans la création. Et tout ça, c'est un petit peu en paradoxe avec la non-existence économique du jeu de rôle, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de domaine économique du jeu de rôle. En tout et pour tout, en France, il y a peut-être 5-6 personnes qui vivent du jeu de rôle. Ça n'est plus un secteur économique du tout.
Mais ça l'était avant ?
Les gens ont cru que ça pouvait l'être, en tout cas.
D'accord.
Les gens ont cru que ça pouvait l'être. Je dirais que les boutiques spécialisées faisaient à peu près 30% de leur chiffre d'affaires en jeu de rôle à une bonne époque. Et ça représentait un réseau de 200 boutiques environ. Aujourd'hui, elles font parfois plus que 3, 4, 5% de leur chiffre en jeu de rôle. Mais la vitalité du jeu de rôle autour des tables de jeu n'a pas baissé parce qu'en fait, les gens jouent avec leurs vieilles règles. C'est juste que ce n'est pas un produit récurrent. Donc, à part l'effet collectionneur, les gens achètent un jeu de rôle et puis ils en achètent un et puis ils jouent avec leurs potes pendant 10 ans. Et voilà, donc on est un petit peu dans ce paradoxe et j'attends beaucoup justement de cette génération jeu de rôle. On l'a vu sur Jeu de Rôle Magazine, on a eu des tonnes et des tonnes de gens qui sont venus nous aider, qui étaient d'un très très haut niveau, qui avaient des tonnes d'idées, qui avaient un potentiel de production créative très très fort, et il y a vraiment des choses à faire dans cette communauté. Et je pense que aujourd'hui, tant en matière de jeu de rôle, en matière de renouveau du jeu de rôle, on peut s'attendre je dirais, à quelque chose qui va un peu révolutionner les choses. Alors, on sait pas d'où ça va venir, mais quelque chose qui va révolutionner le jeu de rôle, comme l'a fait Cthulhu ou le monde des ténèbres dans les années 80 et dans les années 90. Il va y avoir quelque chose qui va sortir forcément avant la fin de la décennie. Je pense qu'il va quelque chose va sortir. Chaque décennie a eu sa petite révolution rôlistique. Il y aura quelque chose qui va sortir. Et puis les rôlistes aussi, je les attends un petit peu justement dans toute cette partie créative qu'est la BD, le roman, les jeux vidéo, les séries, les films, etc. Je les attends et d'ailleurs ils y sont déjà. J'attends juste d'eux qui fassent leur come out et qui disent on l'a fait parce que le jeu de rôle nous a donné l'imagination pour le faire. Mais les gens y sont déjà parce qu'aujourd'hui, quand je fais le tour des popotes, justement de ces milieux, jeux de rôle vidéo, jeux de rôle vidéo, BD, romans, etc., pour chercher des gens pour parler de ce qu'ils font dans le magazine. Eh ben, je tombe systématiquement sur des rôlistes. Les rôlistes sont parmi nous, ils sont partout.
et oui, ils sont partout. Même
Et
sur, même sur,
voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils soient fiers d'être rôlistes
même
et
sur
qu'ils
votre
s'en régalent.
ordinateur.
Voilà.
Ok, bah très bien. Bon ben, ça ira. Voilà, donc là on a terminé pour cette petite interview. Enfin petite, qui dure quand même un petit bout de temps, mais bon. On espère que voilà, vous aurez appris plein de choses, que on vous aura motivé pour des projets à venir. Voilà, et puis bah moi j'espère effectivement que cette année sera une bonne année pour le partenariat, donc Ténébrae et JDR Magazine. Voilà, bon ben alors à bientôt pour un prochain podcast.
À bientôt.